Nous reprenons, si vous voulez bien rejoindre votre place. Et je vous présente Maya Laveau, qui va vous parler aujourd'hui. Maya Laveau a fait toutes ses études et ses recherches à l'université Paris-Sorbonne, juste à côté, où j'ai eu le plaisir de diriger successivement sa maîtrise, son DEA et sa thèse de doctorat, qu'elle est en train d'achever, qui sera bientôt soutenue, et qui porte sur le secret dans la recherche du temps perdu. Elle a eu une allocation à la Sorbonne pour faire cette thèse. Actuellement, elle est retournée enseigner dans un collège, et l'an prochain, elle sera à terre au Collège de France, donc vous la reverrez ici à partir de l'année prochaine. Je suis content donc de lui donner la parole, et son titre aujourd'hui est « Histoire de crime proustien ».
Bien, je remercie Antoine Compagnon de m'avoir invité à intervenir dans son séminaire. C'est une expérience très intimidante, comme vous pouvez l'imaginer. Le sujet dont j'ai choisi aujourd'hui de parler, sous le titre « Histoire de crime proustien », tout au pluriel, va nous mener dans le prolongement du cours qui vient d'être prononcé par Antoine Compagnon vers la face noire du roman, celle qui met en scène les lieux où s'exacerbe la friction entre des caractères, des comportements, des mœurs individuelles et la morale collective, fondant un ordre social préservé par des interdits. Maison de Mademoiselle Vinteuil à Montjouvain, de Jupien dans la cour de l'hôtel de Guermantes, maison de Menneville où Charlus traque Morel, ce sont des lieux où se commettent non les assassinats, mais les plus grands crimes proustiens, ceux de l'inversion et du sadisme, écrit Jean-Yves Tadier dans Proust et le roman. En effet, parce qu'elle donne voix aux sentiments réprimés au plus profond des êtres, aux passions secrètes et aux vices cachés que recèle chacun des personnages, la recherche fait une large place à la thématique criminelle qui se déploie conjointement aux paradigmes judiciaires et policiers, notamment dans la mise en scène de l'homosexualité, qui, dans la recherche, s'inscrit dans la lignée des pratiques et des discours de la médecine légale de l'époque, qui considère l'homosexualité comme une forme de criminalité. Dans l'exposé du narrateur sur l'inversion et les invertis, qui ouvre Sodome et Gomorre, la métaphore du crime vient en effet nourrir le parallèle entre juifs et homosexuels. Et ce parallèle entre crime et inversion sera d'ailleurs réactivé dans les deux grandes mises en scène de l'acte sodomite. D'abord dans l'évocation de la conjonction entre Charlus et Jupien qui ouvre le recueil Sodome et Gomorre, où on se souvient peut-être que le narrateur est le témoin auditif des ébats amoureux entre les deux hommes qu'il assimile à une scène de crime. Et puis enfin, dans Le temps retrouvé, l'épisode de la flagellation de Charlus qui réunit avec les motifs de l'espionnage, du sacrilège et de la perversion les ingrédients du roman noir. Le héros prend d'abord en effet l'hôtel de Jupien pour un repère d'espion, je cite, « où un crime atroce allait être consommé si on n'arrivait pas à temps pour le découvrir et faire arrêter les coupables ». Auparavant, dans La prisonnière, l'évocation des manières familières du baron avec les deux jeunes fils surgissent, dont il admire de près la beauté, avait amené un parallèle avec Landru. Charlus, comme Morel, prend en effet, à mesure que le roman avance, les traits d'un personnage de roman noir, voire de roman du crime. L'obsession du crime, qui intrigue tant Albertine dans les romans de Dostoïevski, elle qui s'interroge dans La prisonnière au moment de la conversation littéraire qu'elle tient avec le narrateur, et ce sera ma première citation, « Mais est-ce qu'il a jamais assassiné quelqu'un, Dostoïevski ?» Les romans que je connais de lui pourraient tous s'appeler l'histoire d'un crime. C'est une obsession chez lui, ce n'est pas naturel qu'il parle toujours de ça. Cette interrogation d'Albertine, donc, ne peut que susciter en retour une interrogation identique chez le lecteur de la recherche. en ce qui concerne d'abord l'intérêt porté par le narrateur proustien à l'homosexualité, mais aussi, et c'est ce qui va m'intéresser maintenant, son obstination à filer la métaphore du crime, et pas seulement, comme on le verra, lorsqu'il s'agit d'inversion. En un sens, l'obsession dostoïevskienne, qui est relevée par Albertine, est aussi une obsession proustienne. Je voudrais montrer que les crimes proustiens ne sont pas seulement des crimes au sens moral ou pénal du terme, des péchés ou des délits tels que l'inversion et le sadisme, mais bel et bien, comme chez Dostoïevski, des crimes de sang, des assassinats, dont il s'agira ici de définir la portée et les scénarios récurrents. Certes, comme le souligne Jean-Yves Tadier, il n'est jamais explicitement question d'assassinat dans la recherche, mais seulement de morts accidentelles, de probables suicides et de meurtres possibles. Le crime de sang n'est jamais loin de se produire effectivement, mais sa réalisation est toujours repoussée aux marges du récit. Ainsi, du lynchage qui laisse à demi-mort un averti ayant fait la cour à Charlus dans Les jeunes filles en fleurs, de l'empoisonnement de la princesse de Guermantes par amour pour Charlus, qui la laissa mourir, je cite, « plutôt que de manquer le coiffeur qui devait le friser au petit fer pour un contrôleur d'omnibus devant lequel il se trouva prodigieusement intimidé », ou encore des pulsions criminelles de Charlus envers Morel, dont l'aveu parvient au narrateur après la mort du baron. Ainsi encore de Swann, que sa jalousie transforme en impossible criminel, comme le souligne Charlus dans La prisonnière, lorsqu'il répond à la question de Brichot. « Mais est-ce que Swann n'a jamais su que vous aviez eu ses faveurs ?» en parlant d'Odette. « Mais voyons quelle horreur, raconter cela à Charles, c'est à faire dresser les cheveux sur la tête. Mais mon cher, il m'aurait tué tout simplement, il était jaloux comme un tigre. » La jalousie de Swann préfigure celle du héros narrateur qui se compare à un assassin après le départ d'Albertine. C'est la citation 2. « Et quand Françoise m'avait remis la lettre d'Albertine, j'avais tout de suite été sûre qu'il s'agissait de la chose qui ne pouvait pas être, de ce départ en quelque sorte perçu depuis plusieurs jours d'avance, malgré les raisons logiques d'être rassurée. Je me l'étais dit presque avec une satisfaction de perspicacité dans mon désespoir, comme un assassin qui sait ne pouvoir être découvert, mais qui a peur, et qui tout d'un coup voit le nom de sa victime écrit en tête d'un dossier chez le juge d'instruction qui l'a fait mander. » La comparaison est ici le prétexte au développement d'un micro-récit dont la teneur évoque très exactement la situation de Raskolnikov dans Crime et Châtiment. Je rappelle cette situation dans le premier chapitre de la deuxième partie du roman. Raskolnikov est convoqué au commissariat le lendemain du meurtre de la vieille. Il est convoqué pour une affaire de dette qui n'a aucun rapport, mais au moment où il s'entretient avec l'officier de police, il surprend une conversation entre le lieutenant et le capitaine qui traite justement du fait divers de l'assassinat de la vieille. Cette comparaison, qui paraît assez incongrue dans le contexte de la fuite d'Albertine, l'est beaucoup moins si l'on considère l'empreinte qu'a laissée Dostoïevski sur l'écriture de la recherche, comme on va le voir. L'ombre d'un héros narrateur assassin est plus nette encore dans un avant-texte de Sodome et Gomorre 2 qui développe les tourments de la jalousie éprouvée par le héros narrateur lors du second séjour à Balbec. Et c'est la citation 3. « Il y eut alors des jours où je voulus me noyer, me pendre, la tuer, car on aime une femme comme on aime le poulet à qui on est heureux de tordre le cou pour en manger à dîner. Seulement pour les femmes, on veut les tuer non pour en avoir du plaisir, mais pour qu'elles n'en prennent pas avec d'autres. » Bien que Proust ait placé cette comparaison, là encore incongrue, entre parenthèses, mais on sait justement chez lui que la parenthèse sert plus souvent à mettre en valeur un fait qu'à en atténuer la portée, bien qu'il ait finalement décidé de supprimer le passage dans le texte définitif, le parallèle est riche de résonance, puisqu'il tisse un lien entre l'épisode de la jalousie amoureuse du héros et ce qui apparaît comme une scène de sadisme du roman. Cette fameuse scène où, dans Combray, Françoise égorge un poulet sous les yeux éberlué du héros narrateur, qui, choqué par la violence de la scène, la rapporte bel et bien comme une scène de crime et montre les pulsions sadiques qui animent à ce moment-là l'exécutrice, puisqu'elle s'acharne sur le poulet en criant « sale bête, sale bête ». À ce moment-là, le sadisme de Françoise lui apparaît comme l'envers inéluctable, non seulement de la bonté et de la serviabilité de la servante, de Françoise, mais aussi de la tendresse de la chair du poulet une fois cuisinée par ses soins. Cette comparaison semble d'autant plus susceptible d'éclairer la nature des sentiments du héros envers Albertine qu'elle est reprise un peu plus loin dans le manuscrit du Temps retrouvé. Et c'est la deuxième partie de cette citation 3. Quand je dis combien je me suis trompée sur mon caractère et que j'avais mal aimé Albertine, dire « Je l'avais aimée, oui, mais dans le sens où nous disons à la cuisinière « Je vous préviens que j'aime le poulet, que j'aime le homard », c'est-à-dire « Tordez le cou à l'un, faites cuire l'autre tout vivant pour que je puisse m'en délecter. Je les aime bien. » Un peu avant, toujours dans le manuscrit du Temps retrouvé, le narrateur fait à Gilberte l'aveu de ses pulsions criminelles envers Albertine, avec beaucoup plus de pudeur et de retenue cette fois-ci, au cours de la conversation qu'ils ont au sujet de la fille aux yeux d'or, conversation qui sera l'occasion pour le narrateur d'évoquer son amour jaloux pour une jeune fille qu'il ne nomme pas et la séquestration qu'il lui a fait subir, à l'instar de l'héroïne balsacienne. Je n'ai pas reporté la citation, mais elle est assez simple. Espérons que cela n'a pas aussi mal fini pour la demoiselle, commande Gilberte. La fille aux yeux d'or est morte assassinée. Non, répond le narrateur. Je n'ai pas assassiné mon amie, quoique je crois que j'aurais pu, mais elle est morte d'un accident. S'il n'y a donc pas d'assassinat effectif dans la recherche, en revanche, il y a beaucoup question de meurtre symbolique, sur le modèle du double assassinat dont le héros pense que sa vie est souillée, et dont Antoine Compagnon a évoqué tout à l'heure. Donc c'est la citation 4 qui a déjà été lue au moment du cours, et qui trouve un doublon quelques pages plus loin. Donc je la relis. « Rapprochant la mort de ma grand-mère de celle d'Albertine, il me semblait que ma vie était souillée d'un double assassinat que seule la lâcheté du monde pouvait me pardonner. » Et un peu plus loin, « Et ainsi, il me semblait que par ma tendresse uniquement égoïste, j'avais laissé mourir Albertine, comme auparavant j'avais assassiné ma grand-mère. » Je ne peux m'empêcher de lire sous cette formule de double assassinat un écho au titre de la nouvelle de Pau dans la traduction de Baudelaire, « Double assassinat dans la rue Morgue ». Et j'ouvre juste une parenthèse que je ne développerai pas pour dire qu'il y aurait pas mal de choses à dire sur les allusions à Pau dans la recherche, qui sont toujours faites de manière très discrète, mais qui tissent au fil du roman un paradigme policier. Je citerai simplement comme exemple ce passage où Morel fait une scène de jalousie terrible à sa fiancée dans La Prisonnière, qu'il traite non pas de sale bête, mais de grand pied de grue. Et le narrateur, commentant cette scène, dit « Scène d'amour déçu, d'amour jaloux peut-être, mais alors aussi bestiale qu'à la parole près peut faire à une femme un orang-outan qui en est, si l'on peut dire, épris. » À mon avis, cet orang-outan-là est tout droit sorti de Pau. Le double assassinat dont le narrateur proustien se sent coupable peut aussi faire écho au double meurtre commis par Raskolnikov, dont nous avons déjà parlé, et dont les victimes sont aussi deux femmes, une vieille et sa sœur. Double assassinat donc, car double victime, mais aussi double assassinat car chacune de ces victimes meurt en quelque sorte deux fois. Albertine disparaît une première fois lorsqu'elle quitte l'appartement du héros et une seconde fois lorsqu'elle meurt. Et sa mort est, selon le narrateur, la conséquence directe de leur brouille et de sa fuite. Quant à la grand-mère, elle meurt de vieillesse dans le côté de Guermantes. Et elle meurt aussi d'une mort symbolique causée par l'indifférence du héros au moment de l'annonce de son décès et par l'oubli dans lequel il l'a ensuite fait sombrer. Ce n'est qu'au début du second séjour à Balbec, dans Sodome et Gomorre 2, que le narrateur prendra conscience de la mort de sa grand-mère dans le passage intitulé « Les intermittences du cœur » qui réveille en lui un sentiment de culpabilité lié au souvenir des fatigues et des souffrances qu'il avait pu causer à sa grand-mère. Fatigue et souffrance causées à cause de sa mauvaise santé et de son manque de volonté, mais là encore, dans la culpabilité éprouvée à l'égard de la grand-mère, on note, comme le relevait Antoine Compagnon, même un certain plaisir qu'il prenait à exagérer ses propres souffrances à lui pour pouvoir voir apparaître sur son visage la douleur de sa grand-mère. C'est le cas, par exemple, dans une des scènes des jeunes filles en fleurs, où il exhibe littéralement devant sa grand-mère ses difficultés à respirer, ses suffocations qui vont l'obliger à prendre de l'alcool, jusqu'à provoquer chez la grand-mère la contraction de douleur. Il aimait aussi entraver ses plaisirs, par exemple, lorsque, le jour de la photographie de Saint-Loup, il raille sa coquetterie à s'apprêter et à se faire belle devant l'objectif. Ces souvenirs des souffrances causées incarnée par la contraction douloureuse du visage de la grand-mère qui persiste jusque sur la photographie prise par Saint-Loup, agissent sur lui comme un châtiment. Car, je cite, et c'est la citation 5, « car comme les morts n'existent plus qu'en nous, c'est nous-mêmes que nous frappons sans relâche quand nous nous obstinons à nous souvenir des coups que nous leur avons assenés. » Autour des personnages de la grand-mère et d'Albertine se joue symboliquement le drame du parricide, dont la thématique traverse l'œuvre de Proust dès les nouvelles de jeunesse. Dans l'une des plus abouties, La confession d'une jeune fille, qui est parue en 1896 dans Les plaisirs et les jours, une jeune femme livre dans son dernier souffle, elle vient de se tirer une balle dans le corps, le récit de ce qu'elle pense être ses fautes, ses débauches, qui sont selon elle la conséquence de son manque de volonté et qui ont entraîné, toujours selon elle, la mort accidentelle de sa mère. La confession s'achève sur le récit de ce que l'héroïne appelle son crime. Fiancée à un jeune homme qu'elle doit épouser, elle se donne, en l'absence de son futur mari, à un autre jeune homme, pervers et méchant, qui fut autrefois son amant. Partagée entre le plaisir de la jouissance et l'horreur de l'acte voluptueux, qu'elle vit véritablement comme une profanation à l'égard de sa mère, elle aperçoit soudain la silhouette maternelle qui l'observe à la fenêtre et qui, de stupeur devant ce spectacle, tombe du balcon. La confession d'une jeune fille, là aussi, doit beaucoup à Dostoïevski, en particulier en ce qui concerne la psychologie de l'héroïne, qui se caractérise par une conscience dans le mal, qui est celle des personnages dostoïevskiens. Dans la dédicace du recueil, Proust évoque, en parlant de ces personnages des plaisirs et des jours, ces êtres d'une conscience délicate, trop faible pour vouloir le bien, trop noble pour jouir pleinement dans le mal, ne connaissant que la souffrance. Cette vision proustienne est ici influencée par sa lecture de Baudelaire, par l'idée d'un mal conçu comme inséparable du plaisir et soumis à une réversibilité qui transforme le bourreau en victime et la victime en bourreau, selon le principe bien connu développé dans Léoton Timoroumenos. Je suis la plaie et le couteau, je suis le soufflet et la joue, je suis les membres et la roue, et la victime et le bourreau. Ainsi, le crime de l'héroïne de la confession, qui mêle au plaisir l'horreur de la dépravation, est d'abord symboliquement dirigé contre l'amour, contre l'image maternelle et l'amour maternel, mais il se retourne dans un second temps contre la jeune fille elle-même. La mort de la mère est en quelque sorte le châtiment de la fille qui, en retour, se donne la mort et redouble ainsi de fait et le crime et le châtiment. La même culpabilité qui provoque à la fois le crime et le châtiment est au centre de l'article « Sentiments filiaux d'un parricide » qui est paru en 1907 dans Le Figaro. Il s'agit d'un article que Proust a rédigé à la suite de ce qu'on peut appeler un fait divers, le meurtre de Madame Van Blarenberg, une connaissance de ses parents, par son fils Henri, qui s'est suicidé aussitôt après. J'ouvre encore une parenthèse pour préciser que ce fait divers est lui-même paru dans Le Figaro et que dans le début de l'article du Figaro rédigé par Proust, Proust revient sur les circonstances dans lesquelles il a lu ce fait divers et il développe une réflexion qui reprend tout à fait le sentiment très proustien du Suave Marie Magno et le thème de la lecture du journal. Je vous cite juste quelques mots. « Je voulus jeter un regard sur le Figaro, procéder à cet acte abominable et voluptueux qui s'appelle lire le journal, etc. » Dans le corps de l'article, Proust tente d'expliquer le crime d'Henri Van Blarenberg par un aveuglement, une sorte de folie criminelle qui dépasse la volonté humaine et qu'il compare à celle d'Ajax et d'Édipe. C'est la citation 6. Elle est un peu longue, je ne la lirai pas en entier. J'ai voulu montrer dans quelle pure, dans quelle religieuse atmosphère de beauté morale eut lieu cette explosion de folie et de sang qui l'éclabousse sans parvenir à la souiller. Je vous lis la fin, qui est importante. Le pauvre parricide n'était pas une brute criminelle, un être en dehors de l'humanité, mais un noble exemplaire d'humanité, un homme d'esprit éclairé, un fils tendre et pieux que la plus inéluctable fatalité a jeté dans un crime et une expiation digne de demeurer illustre. Ce qui est intéressant ici, comme on va le voir, c'est ce retournement dans la mesure où Proust met en valeur la tendresse et la piété filiale qui ont mené justement au parricide. Dans la fin de l'article, non publié, car elle fut portée par Proust sur le tard au Figaro, la problématique du crime et de l'expiation est développée à travers la convocation d'une troisième figure tragique et païenne, après Ajax et Œdipe, c'est celle d'Oreste. Je n'ai pas mis la citation, mais je vous la livre. Rappelons-nous que chez les anciens, il n'était pas d'autel plus sacré, entouré d'une vénération, d'une superstition plus profonde, gage de plus de grandeur et de gloire pour la terre qui les possédait et les avait chèrement disputés, que le tombeau d'Œdipe à Colone et que le tombeau d'Oreste à Sparte. Cet Oreste que les Furies avaient poursuivi jusqu'au pied d'Apollon même et d'Athénée en disant « Nous chassons loin des autels le fils parricide ». La réflexion menée dans l'article de 1907, qui insiste sur le caractère sacré du matricide commis par Henri van Blarenberghe, dont la pathologie criminelle est interprétée par Proust en termes de fatalité, cette réflexion permet d'éclairer le traitement du thème dans la recherche, comme l'a bien montré Juliette Racine dans Proust à la recherche de Dostoïevski. Ainsi s'explique l'allusion à Oreste à la fin de Sodome et Gomorre 2, lorsque le narrateur interprète les souffrances que lui cause la révélation qu'Albertine a bien connue Mademoiselle Vinteuil comme le châtiment de son crime. Et c'est la citation 7 qui est bien connue, dont je lirai le début. L'image de la scène de Montjouvain, cette image, conservée vivante au fond de moi, comme Oreste dont les dieux avaient empêché la mort pour qu'au jour désigné il revînt dans son pays punir le meurtre d'Agamemnon, pour mon supplice, pour mon châtiment peut-être, qui sait, d'avoir laissé mourir ma grand-mère. Si l'allusion à Oreste ancre la problématique dans le contexte païen de la mythologie grecque, elle est associée à une thématique du crime et du châtiment qui, dans la recherche, est très explicitement placée sous le signe de Dostoïevski, mais d'un Dostoïevski non orthodoxe, en quelque sorte, lu à la lumière des tragiques grecques. En effet, lorsque le narrateur évoque les romans de Dostoïevski dans La prisonnière, toujours lors de la conversation littéraire avec Albertine, il parle de, je cite, « motifs sculpturaux et simples, dignes de l'art le plus antique, de frises interrompues et reprises où se déroulerait la vengeance et l'expiation », dont il donne deux exemples, le crime du père Karamazov engrossant la pauvre folle, qui figurerait le premier épisode de cette frise, dont le deuxième épisode serait figuré par le meurtre du père Karamazov lui-même par Smerdiakov, le fils de la folle, que le narrateur de la recherche interprète comme un parricide qui expie la faute du père Karamazov. Le meurtre symbolique de la grand-mère par le narrateur proustien, tel qu'il s'en rend coupable lui-même, s'inscrit donc dans un imaginaire tragique qui, depuis la confession d'une jeune fille, en passant par les sentiments filiaux d'un parricide, pense la relation à la mère, la grand-mère figurant dans la recherche un double maternel, sur le mode de l'amour-haine, et qui trouve son accomplissement ultime dans l'expérience du matricide, vécue comme une fatalité quasi mythologique. Dans la conclusion de l'article du Figaro, Proust tire de l'examen du cas van Barenberghe l'idée générale que tous les fils sont matricides. C'est la phrase que j'ai placée à la fin de la citation 6. Au fond, nous vieillissons, nous tuons tout ce qui nous aime par les soucis que nous lui donnons, par l'inquiète tendresse elle-même que nous inspirons et mettons sans cesse en alarme. La résurgence du thème du parricide dans la recherche est double. Si, d'une part, les résonances tragiques du thème soulevant la problématique dostoïevskienne du crime et du châtiment sont réservées au traitement de la mort de la grand-mère, mais de l'autre, la mise en scène mélodramatique qui caractérise aussi bien l'accident de la mère qui tombe du balcon dans la confession d'une jeune fille que le récit du meurtre d'Henri van Blarenberghe dans l'article « Sentiments filiaux d'un parricide », la mise en scène mélodramatique, donc, est réinvestie dans la scène de sadisme à Montjouvain. Le musicien Vinteuil, qui vit à Montjouvain sous le même toit que sa fille et son amie, dont les relations défraient la chronique combrésienne, est explicitement désignée par le narrateur comme victime d'un parricide symbolique. Commentant la mort de Vinteuil, le narrateur évoque le remords que devait éprouver sa fille, je cite, « d'avoir à peu près tué son père ». Il faut noter aussi que Vinteuil est une figure maternelle, toujours muni de châles supplémentaires à lui jeter sur les épaules, dans un geste qui rappelle les attentions qu'ont la grand-mère et la mère du narrateur pour la santé fragile du héros. Vinteuil avait pour sa fille, qui ressemble à un garçon et en a les manières et les goûts, Vinteuil avait pour sa fille des soins, je cite, « des soins de mère et de bonne d'enfant ». Il est significatif aussi que le souvenir des dernières souffrances de Vinteuil suscite la compassion justement de la mère du narrateur. Et dans un mouvement d'empathie qui ne peut naître que d'une certaine identification, provoque chez elle de l'effroi. La scène de profanation du portrait du défunt par Mademoiselle Vinteuil et son amie, à laquelle assiste le narrateur, reproduit symboliquement le parricide déjà commis. Ce qui est visé par les gestes et les propos profanatoires des deux amis est non seulement l'amour que portait Vinteuil à sa fille, mais encore, et peut-être plus essentiellement, ses attentions maternelles. Ainsi, l'amie de Mademoiselle Vinteuil s'exclame-t-elle, lorsque celle-ci fait mine de vouloir déplacer le portrait que Mademoiselle Vinteuil a justement placé en évidence dans le petit salon. « Mais laisse-le donc où il est, il n'est plus là pour nous embêter. Crois-tu qu'il pleurnicherait, qu'il voudrait te mettre ton manteau s'il te voyait là, la fenêtre ouverte, le vilain singe ?» Les dispositifs voyeuristes, indispensables à la réalisation de l'acte profanatoire, rappellent dans cette scène celui de la confession d'une jeune fille, dont l'héroïne observe dans le miroir son propre visage, qui offre l'image de la jouissance la plus bestiale, au moment même où elle aperçoit par la fenêtre sa propre mère frappée de stupeur à la vue de cette même image. Le miroir introduit la distance nécessaire au dédoublement de l'héroïne en actrice et spectatrice de sa propre débauche, plaçant ainsi sous ses yeux ce que sa mère a vu et ce qui l'a tué. La fille voit sa mère la voyant, et ce faisant, elle assiste simultanément au spectacle de sa propre jouissance et à son effet profanatoire et meurtrier, qui est quasi immédiat. À la fin de Sodome et Gomorrhe II, dans l'épisode de la désolation au lever du soleil, on appelle ainsi ce moment où le narrateur, en proie au tourment de la jalousie, après qu'Albertine lui a avoué qu'elle connaît bien Mademoiselle Vinteuil, le narrateur voit se refléter dans la vitre de sa chambre du Grand Hôtel le spectacle du soleil levant sur la mer, un spectacle derrière lequel son imagination donne en surimpression l'image de la scène de Montjouvain, justement, où il imagine que Albertine prend place à la place de l'amie de Mademoiselle Vinteuil. Cet épisode, donc, donne à la scène de Montjouvain une portée tragique qu'elle n'avait pas jusque-là, selon un mécanisme à deux coups, en quelque sorte, qui constitue l'exemple peut-être le plus flagrant d'un procédé que Proust relève chez Dostoïevski dans un bref texte qu'il lui consacre en 1922, peu avant sa mort, et qui prolonge la réflexion entamée dans La Prisonnière. C'est la citation numéro 8. Tous les romans de Dostoïevski pourraient s'appeler « Crime et châtiment », comme tous ceux de Flaubert et Madame Bovary, surtout « L'éducation sentimentale ». Mais il est probable qu'il divise en deux personnes ce qui a été en réalité d'une seule. Il y a certainement un crime dans sa vie et un châtiment, qui n'a peut-être pas de rapport avec ce crime, mais il a préféré distribuer en deux, mettre les impressions du châtiment sur lui-même, au besoin, maison des morts, et le crime sur d'autres. L'épisode de la désolation au lever du soleil opère en effet un dédoublement fantasmatique de la scène de Montjouvain. Elle fait littéralement porter le châtiment sur le héros, tandis que le crime qui s'y rapporte reste le fait des jeunes filles, Mademoiselle Vinteuil et son amie, mais aussi Albertine. L'analyse psychologique s'en trouve dédoublée. Comme les commentateurs l'ont souvent noté, à Montjouvain, le narrateur détaille les impressions de son crime dans l'esprit de Mademoiselle Vinteuil. À Balbec, dans Sodome et Gomorrhe, le narrateur livre les effets de ce crime et du châtiment qu'il entraîne, non pas seulement pour ceux qui les ont commis, je cite, c'est la fin de la citation 7, Donc il livre les effets de ce crime et du châtiment qu'il entraîne, non pas seulement pour ceux qui les ont commis, mais pour ceux qui n'ont cru que contempler un spectacle curieux et divertissant. Comme moi, hélas, en cette fin de journée lointaine à Montjouvain. Si le crime pour lequel le protagoniste reçoit ici son châtiment paraît étranger à la scène qui s'est jadis jouée à Montjouvain, en revanche, il n'est pas sans rapport avec elle, puisque le narrateur exprime la culpabilité d'avoir laissé mourir sa grand-mère, comme en quelque sorte Mademoiselle Vinteuil a fait mourir son père. La faute de Mademoiselle Vinteuil rejaillit donc doublement sur le héros. En tant que voyeur d'abord de la scène de sadisme, dans lequel le narrateur est de fait enrôlé, et en tant à son tour que parricide, ou plutôt devrait-on dire matricide. Le rôle de voyeur qu'il a tenu à Montjouvain et qu'il tient encore de manière fantasmatique lorsqu'il projette l'image d'Albertine à la place de l'amie de Mademoiselle Vinteuil, ne signe donc pas son exclusion de la scène du crime, mais révèle bel et bien son implication. Et il suffit au narrateur de se savoir observé par sa mère, qui contemple avec lui le spectacle du soleil levant sur la mer, et qui certes ne voit pas l'image fantasmée par son fils d'Albertine dans la chambre de Montjouvain, mais qui en perçoit parfaitement les effets sur sa physionomie. Il suffit donc au narrateur de se savoir observé par sa mère pour être à son tour projeté dans la scène de Montjouvain, qu'il revit ainsi en tant que voyeur, mais aussi en tant que protagoniste qui vient prendre sa place sous le regard de sa mère à lui au sein d'un scénario qui répartirait les rôles à la manière de la confession d'une jeune fille. L'autre parricide symbolique mettant en jeu un couple père-fille dans le roman est lié à la mort de Swann, qui elle aussi a lieu deux fois en quelque sorte. Swann, en effet, meurt d'une maladie qui le consume dans l'indifférence générale entre la soirée chez la princesse de Guermantes au début de Sodome et Gomorre et la prisonnière où le lecteur apprend a posteriori que la mort de Swann, sombrée dans une ellipse du récit, je cite, « avait à l'époque bouleversé le narrateur ». Swann meurt une seconde fois de l'oubli auquel œuvre sa propre fille Gilberte à travers l'effacement progressif du nom de Swann, qu'elle déforme d'abord phonétiquement en Svan, par une prononciation caricaturale qui traduit bien la honte de ses origines paternelles, et puis qu'elle réduit à sa simple initiale S, coincée dans sa signature entre son prénom et le patronyme de son père adoptif, Forcheville. Enfin, le nom de Swann qu'elle élimine définitivement au profit de Forcheville, puis de Saint-Loup, et finalement du brillant titre de Duchesse de Guermantes. Gilberte, la jeune fille docile et aimante du début d'Alombre des jeunes filles en fleurs, renie finalement sa piété filiale dans un mouvement inverse à celui qu'opère Mademoiselle Vinteuil, dont l'attitude profanatoire lors de la scène de sadisme à Montjouvain met paradoxalement en lumière une mémoire filiale qui révèle la véritable nature de ses sentiments, de son amour pour son père. Le narrateur dira plus loin: l'adoration pour son père était la condition même du sacrilège de sa fille. Cette piété filiale qui trouve ensuite son accomplissement dans l'entreprise de transcription du chef-d'œuvre de Vinteuil, le Septuor, par l'ami de Mademoiselle Vinteuil. C'est donc Mademoiselle Vinteuil dont Gilberte déclarait dans Les Jeunes Filles: jamais je ne la connaîtrai. Pour une raison, c'est qu'elle n'était pas gentille pour son père, à ce qu'on dit. Elle lui faisait de la peine. Allant jusqu'à ajouter en s'adressant au héros: vous ne pouvez pas plus comprendre cela que moi, n'est-ce pas? Vous qui ne pourriez sans doute pas plus survivre à votre papa que moi au mien, ce qui du reste est tout naturel. Comment oublier quelqu'un qu'on aime depuis toujours? C'est donc Mademoiselle Vinteuil qui incarne dans le roman l'amour filial et la mémoire du père. Elle ne se définit d'ailleurs en tant que personnage romanesque que par rapport au père dont elle porte le nom, mais aussi dont elle reproduit les manières et dont elle a les yeux. C'est la citation numéro 9. Bien plus que sa photographie, ce qu'elle profanait, ce qu'elle faisait servir à ses plaisirs, mais qui restait entre eux et elle et l'empêchait de les goûter directement, c'était la ressemblance de son visage, les yeux bleus de sa mère à lui, qu'il lui avait transmis comme un bijou de famille. La profanation touche ici, comme par-dessus la tête du père, la grand-mère, la mère de Vinteuil. Elle s'accomplit par la ressemblance de la fille débauchée avec son père et sa grand-mère, hors de tout geste délibérément profanatoire, mais aussi hors de toute médiation. Dans la scène de Montjouvain, il y avait une médiation qui était opérée par le portrait de Vinteuil. L'intrusion d'une tierce personne, l'aïeul, dans la relation père-fille, confère alors à Vinteuil père un rôle ambivalent, en ce qu'il apparaît à la fois comme victime et comme complice de la profanation, puisque c'est bien lui qui, ayant transmis à sa fille les yeux bleus de sa mère à lui comme un bijou de famille, rend possible cette profanation. La double relation filiale qui est ainsi mise en place par la superposition des couples père-fille, mère-fils et petite-fille-grand-mère donne toute sa complexité au thème des mères profanées qui affleurent dans la recherche des Combray. L'idée que tous les fils profanent l'image maternelle par leur ressemblance avec elle, qu'ils mettent au service du vice et de la débauche, apparaît déjà dans Jean Santeuil autour du personnage éponyme, et elle sera reprise ensuite dans les notes en vue du Contre Sainte-Beuve. C'est la deuxième partie de la citation que j'ai fait figurer sous la citation 9, « Le visage d'un fils qui vit, ostensoir où mettait sa foi sublime une mère morte, est comme une profanation de ce souvenir sacré, car il est ce visage à qui ses yeux suppliants ont adressé un adieu qu'il ne devait pas pouvoir oublier une seconde, car c'est avec la ligne si belle du nez de sa mère que son nez est fait, car c'est avec le sourire de sa mère qu'il excite les filles à la débauche, etc. » Le thème trouve dans la recherche de multiples échos que je ne vais pas développer ici, en particulier autour du personnage du baron de Charlus, dont le portrait, lors de la soirée Verdurin à la Raspelière dans Sodome et Gomorre, se clôt de cette manière. Au reste, peut-on séparer entièrement l'aspect de monsieur de Charlus du fait que les fils n'ayant pas toujours la ressemblance paternelle, même sans être invertis et en recherchant les femmes, ils consomment dans leur visage la profanation de leur mère. Donc, comme le narrateur, je laisserai de côté ce chapitre des mères profanées, mais je soulignerai que j'en soulignerai un dernier exemple, une dernière incarnation à travers la figure de la Berma, dont le comportement de la fille dans le temps retrouvé illustre très exactement la conclusion de l'article « Sentiments filiaux d'un parricide ». La conclusion de l'article, c'était « Au fond, nous vieillissons, nous tuons tout ce qui nous aime par les soucis que nous lui donnons ». Donc c'est la citation numéro 10 qui concerne la Berma. La Berma, atteinte d'une maladie mortelle qui la forçait à fréquenter peu de monde, avait vu son état s'aggraver quand, pour subvenir aux besoins de luxe de sa fille, besoin que son gendre souffrant et paresseux ne pouvait satisfaire, elle s'était remise à jouer. Elle savait qu'elle abrégeait ses jours, mais voulait faire plaisir à sa fille à qui elle rapportait de gros cachets. Et un peu plus loin, malheureusement, ces billets ne faisaient que permettre au gendre et à la fille de nouveaux embellissements de leur hôtel, contigus à celui de leur mère. D'où d'incessants coups de marteau qui interrompaient le sommeil dont la grande tragédienne aurait eu tant besoin. Les coups de marteau des ouvriers qui travaillent au luxe de la fille de la Berma sont autant de coups mortels portés à la santé et à l'amour maternel de la grande tragédienne qui joue ici son dernier rôle, peut-être le plus tragique en vérité, mais d'un tragique qui vire au mélodrame domestique, comme à Montjouvain. Le double épisode du thé chez la Berma, qui tourne au repas funéraire, et 15 pages plus loin, le récit de la mort de la Berma dans la solitude et l'indifférence générale, est enchâssé dans le récit de la matinée organisée par Rachel, sa rivale, chez la princesse de Guermantes. Au couple formé au début du roman par la Berma et la princesse de Guermantes, qui suscitait toutes deux l'admiration passionnée du héros, se substitue ici le couple dégradé formé par Rachel et la nouvelle princesse de Guermantes, Madame Verdurin. Tandis que le narrateur disait évoquant son admiration passée pour la Berma, affirmait dans le côté de Guermantes, et il était arrivé à un moment où, malade, même si j'avais cru en mourir, il aurait fallu que j'allasse entendre la Berma, il est conduit dans le temps retrouvé à la position strictement inverse que pourrait résumer la formule symétrique, mais que je forge pour l'occasion. Et il était arrivé un moment où, la Berma étant malade, même si j'avais cru qu'elle allait mourir, je ne serais pas allée la voir. En effet, comme tous les autres invités de la princesse de Guermantes, le héros a délaissé la Berma qui, mourante, a convié quelques fidèles à prendre le thé chez elle. À ce moment du récit, la Berma est victime d'un supplice inverse à celui dont se plaignaient avec mauvaise foi les Guermantes à la fin dans la scène finale qui clôt le côté de Guermantes, dans le fameux épisode des souliers rouges de la Duchesse. Un moment où le duc et la Duchesse, prêts à partir à une redoute chez la princesse de Guermantes, se déclarent explicitement, quoique symboliquement, morts successivement de faim, de fatigue, d'ennui, surmenés par l'intensité d'une vie mondaine qui ne leur laisse pas un instant pour veiller sur leur proche à l'agonie, le cousin d'Osmond, dont ils essayent de retarder le plus possible la mort qui les empêcherait d'aller festoyer, mais aussi de Swann qui vient justement leur annoncer qu'il va mourir. « Ah, mon petit Charles, reprit Madame de Guermantes d'un air languissant, parce que ça peut être ennuyeux de dîner en ville, il y a des soirs où on aimerait mieux mourir. » C'est ce qu'il arrive très exactement à la Berma ce soir-là, le soir du bal de tête. L'épisode de la mort de la Berma met en scène non seulement l'indifférence cruelle de la fille de la Berma et de son gendre, qui profite d'un moment où la Berma s'était retirée dans sa chambre, crachant un peu de sang pour partir chez la princesse de Guermantes et s'abaisser à demander à Rachel de les recevoir. Mais encore, le narrateur souligne la cruauté de Rachel, dont il souligne le caractère banal et commun, hors de toute intention immorale. C'est la citation numéro 11. Elle était ravie de porter ce coup à la Berma. Peut-être eût-elle reculé si elle eût su que ce serait un coup mortel. On aime à faire des victimes, mais sans se mettre précisément dans son tort, en les laissant vivre. D'ailleurs, où était son tort ? Elle devait dire en riant quelques jours plus tard, « C'est un peu fort, j'ai voulu être plus aimable pour ses enfants qu'elle n'a jamais été pour moi, et pour un peu, on m'accuserait de l'avoir assassinée. Je prends la duchesse à témoin. » Il semble que tous les mauvais sentiments et tout le factice de la vie de théâtre, passant en leurs enfants sans que chez eux le travail obstiné soit un dérivatif comme chez la mère, les grandes tragédiennes meurent souvent victimes des complots domestiques noués autour d'elles, comme il leur arrivait tant de fois à la fin des pièces qu'elles jouaient. Telle est la conclusion de l'épisode, qui revient sur le lien profond unissant ce matricide à peine symbolique à la notion de ressemblance et d'héritage filial. Le narrateur disait quelques pages plus haut, « La Berma n'était pas du reste meilleure que sa fille. C'est en elle que sa fille avait puisé, par l'hérédité et par la contagion de l'exemple qu'une admiration trop naturelle rendait plus efficace, son égoïsme, son impitoyable raillerie, son inconsciente cruauté. » Ainsi, Proust inscrit au cœur de la thématique des mères profanées l'idée d'une réciprocité non seulement des sentiments d'amour et de haine, qui est évidente dans le mécanisme de la profanation tel qu'il l'analyse dans la scène de Montjouvain, et également dans le geste parricide tel qu'il est mis en scène dans le sentiment filiaux d'un parricide, mais réciprocité aussi du lien parent-enfant, au sein duquel les rôles complémentaires de victime et de bourreau sont toujours susceptibles de s'inverser. L'épisode de la mort de la Berma croise deux modèles de scènes récurrentes dans la recherche. Non seulement elle offre l'exemple d'une scène de meurtre symbolique, de matricide plus précisément, puisque comme on l'a vu, la Berma meurt des exigences égoïstes de sa fille et du soin qu'elle-même a mis à les satisfaire au détriment de sa santé, mais encore, cette scène est l'archétype d'une scène d'exécution collective dirigée par un meneur, ici Rachel, contre un bouc émissaire. L'effet d'exécution collective est produit ici par ce procédé d'enchâssement narratif qui place le récit du thé chez la Berma en contrepoint de la matinée chez la princesse de Guermantes donnée en l'honneur de Rachel, tous les invités du thé chez la Berma ayant fui pour se presser chez la seconde. Ces scènes d'exécution collective dont Antoine Compagnon a donné déjà de multiples exemples et dont Rachel est déjà l'instigatrice dans le côté de Guermantes lorsqu'elle inflige à une jeune comédienne qui est aussi sa rivale une humiliation à l'aide de quelques-unes de ses amies qui entraînent le public entier dans leur sarcasme. Et c'est à propos de cette scène que le narrateur établira un parallèle qui définit en quelque sorte ce que peut être la scène d'exécution collective chez Proust, dans la recherche. Il établit un parallèle avec la scène du supplice au cognac, justement, auquel il assistait enfant à Combray. Le crime, donc, nourrit le roman proustien, comme il nourrit les romans de Dostoïevski. Mais chez Proust, le crime est banal. Il fait partie de la vie quotidienne. Et sa mise en scène, autour du scénario récurrent du meurtre symbolique, et en particulier du parricide, prend des allures de tragédie domestique, c'est l'expression employée à Montjouvain, voire de tragédie d'arrière-cuisine, pour reprendre l'expression du narrateur lorsqu'il commente la scène où Françoise égorge un poulet dans Combray, et qui trouve un écho, comme on l'a vu, dans l'énoncé des pulsions meurtrières du héros-narrateur à l'égard d'Albertine. Cette expression, tragédie d'arrière-cuisine, trouve un autre écho significatif dans la conclusion de la troisième et dernière scène d'exécution de Sagnette dans La prisonnière, qui aura raison du pauvre homme, une fois pour toutes. Et c'est la citation numéro 12. Car 5 minutes ne s'étaient pas écoulées depuis l'algarade de M. Verdurin, qu'un valet de pied vint prévenir le patron que M. Sagnette était tombé d'une attaque dans la cour de l'hôtel. Mais la soirée n'était pas finie. « Faites-le ramener chez lui, ce ne sera rien », dit le patron, dont l'hôtel particulier, comme eût dit le directeur de l'hôtel de Balbec, fut assimilé ainsi à ces grands hôtels où on s'empresse de cacher les morts subites pour ne pas effrayer la clientèle, et où l'on cache provisoirement le défunt dans un garde-manger, jusqu'au moment où, eût il été de son vivant le plus brillant et le plus généreux des hommes, on le fera sortir clandestinement par la porte réservée aux plongeurs et aux sauciers. Mort, du reste, Sagnette ne l'était pas. Il vécut encore quelques semaines, mais sans reprendre que passagèrement connaissance. Par le biais de cette comparaison, pour le moins incongrue, là encore, qui fait passer pour un acte banal et quotidien, un acte d'arrière-cuisine, une scène absolument incroyable et ignoble, s'énonce la morale de Proust, du moins une morale de Proust. Le crime est un des ressorts essentiels des relations humaines, qu'elles soient familiales, amoureuses ou mondaines, et il repose sur la chose du monde la mieux partagée. L'indifférence aux souffrances qu'on cause, car c'est bien de cela qu'il est question ici, voire le plaisir qu'on y prend. On aime à faire des victimes, mais sans se mettre précisément dans son tort, en les laissant vivre. L'aphorisme moral, ou plutôt très immoral, qui sert de commentaire au coup fatal porté par Rachel à la Berma, met bien en lumière le genre du parfait crime proustien, un crime de sang, certes, mais un crime dont la victime meurt par contre-coup et à contre-temps, et sans éclabousser le coupable. Je vous remercie.